BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Toutes les études de la semaine sélectionnées par la rédaction. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn. À chaque fois, la librairie de l'écho, vous y retrouverez les références détaillées de tous les livres qu'on cite dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. La France décline, la France désindustrialise, la France s'appauvrit, la France a choisi l'oisiveté. Tout cela est malheureusement vrai. Mais dans l'histoire, la France a connu des périodes bien plus terribles et s'est chaque fois redressée. Alors comment a-t-elle fait? Qui ont été les héros de ces sursauts? Et surtout, les conditions de ces sursauts sont-elles à nouveau réunies aujourd'hui? Réponse avec nos deux invités. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes économiste, essayiste, fondateur du cabinet Asterès et vous publiez « L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France ». C'est aux éditions XO. Jean-Denis Combrexelle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur général du travail, directeur de cabinet de la première ministre Elisabeth Borne. Vous êtes aujourd'hui à la tête de votre propre cabinet et vous publiez du bon exercice du pouvoir aux éditions Odile Jacob parce que le sursaut dépendra aussi beaucoup de la façon dont il sera accompagné par la haute administration dont vous connaissez tous les rouages. On commence avec vous, Nicolas Bouzou. Peu de pays alternent avec autant de constance que la France, les très bas et les très hauts, les nadirs et les zéniths. Comment est-ce que vous expliquez cette folle histoire française?
C'est une folle histoire, c'est ce qui la rend d'ailleurs, à mon avis, absolument passionnante. Je crois que ce sont des raisons extrêmement profondes et extrêmement lointaines. C'est-à-dire qu'au fond, notre pays, qui n'est pas très grand, qui réunit trois civilisations, la civilisation celte, la civilisation romaine, la civilisation barbare, coincée au bout de l'Europe, entre montagnes et océans, c'est forcément compliqué, c'est forcément conflictuel, ça peut pas bien se passer en fait. Et donc, il nous faut des projets politiques communs, il faut que notre énergie et notre conflictualité soit canalisé. Et d'ailleurs, cette idée, en fait, c'est une idée, quand vous en parlez au président de la République contemporain, encore vivant, ils vous le disent. Moi, je raconte ça, j'ai eu des conversations assez approfondies sur ce sujet avec Nicolas Sarkozy, qui explique très bien que quand on est président, on sent cette énergie qui peut aller vers le pire et qu'il faut en permanence essayer de canaliser. Donc, c'est le charme de la France. Quand le Japon fait une réforme des retraites, c'est un décret, personne ne s'en rend compte. Quand en France, on annonce, vous en savez quelque chose, on annonce une réforme des retraites, on est sûr qu'on va avoir 100 000 personnes pendant des mois dans la rue. Bon, on fait la réforme, hein, mais c'est ce qui fait notre charme aussi.
Bon, vos livres à tous les deux sont bourrés de citations formidables. Je cite André Mauroy, sur lequel vous
immense
vous appuyez
historien
dans ce livre. « La France est l'extrémité de l'Europe où s'arrêtaient les invasions et où se fixaient les envahisseurs ».
En fait, André Mauroy, il a écrit une histoire de France dont je me suis inspiré en 1943. Elle était publiée en 47, mais il l'a écrite en 43. La vérité, c'est qu'il voulait se rassurer. Justement, en voyant que la France avait failli plusieurs fois disparaître. C'est l'un des rares pays, Emmanuel, qui se retrouve tellement au bord de l'abîme qu'en réalité, c'est son existence qui est... On n'en est pas là du tout aujourd'hui, hein, bien évidemment.
Alors, vous racontez plein d'expériences, d'épisodes historiques. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir quand même les constantes qui se répétaient à chaque fois. Et alors, franchement, quand on referme votre livre, on se dit, finalement, à chaque fois que la France s'est redressée, c'est en s'appuyant sur une espèce de triptyque, un gestionnaire compétent.
Oui.
Donc, elle s'est d'abord redressée avec l'économie, avec le libéralisme, et avec l'innovation.
Oui, absolument.
Ouais, les trois critères que j'ai retrouvés, c'est ça.
C'est exactement ça. Et en fait, vous pouvez prendre tous les dirigeants, en effet, qui ont relevé la France, de Henri IV au général de Gaulle, en passant par Napoléon III. Et même, alors ce sera un débat avec des historiens, mais même Napoléon Ier, en réalité, ce sont des dirigeants qui avaient cette vision. C'est-à-dire un État qui fonctionne, très clairement. Il faut un État qui fonctionne. La liberté économique. Alors, quand j'entends dire que la France n'est pas libérale, je trouve ça, mais toujours absurde. Déjà, vous avez une tradition intellectuelle libérale en France, chez les économistes, hein, qui est extrêmement forte. Vincent de Gournay, Cantillon, Turgot, etc. Je pourrais vous en citer plein. À l'époque des Lumières, au fond. Et puis surtout, les dirigeants dont j'ai parlé étaient libéraux. Le plus libéral d'entre eux, ouais, pardon, étant peut-être le général de Gaulle, qui l'explique dans le troisième chapitre de ses Mémoires d'espoir de façon extrêmement détaillée. Enfin, je veux dire, il faut lire le général de Gaulle pour savoir comment, très concrètement, on redresse un pays et avec quelle vision. Il dit tout, hein.
Oui, mais enfin, bon, l'État a quand même une place très importante. Alors que vous reprenez des épisodes, bon, Sully, Colbert, Turgot, vous parlez de cet épisode assez méconnu, enfin injustement traité de notre histoire, les Trois Glorieuses. Vous dites à chaque fois,
c'est la révolution
préférée.
Est-ce
que c'était pas plus libéral tout ça que le général de Gaulle?
Je parle sous le contrôle d'un spécialiste de la simplification, mais à chaque fois que la France fait des plans de simplification. Parce que la France, comme tous les pays, elle accumule évidemment au cours de son histoire les normes, etc. Mais ça donne des résultats absolument extraordinaires. Je vous donne un exemple très concret. On est sur la chaîne des entreprises. 1867, Napoléon III fait une grande loi de simplification au fond de la création des entreprises. Il crée la société anonyme. Anonyme, qui permet de faire en sorte que, bah, quand on crée une entreprise, on soit plus responsable sur son propre patrimoine. Eh bien, c'est l'une des lois qui va préparer la belle époque française, c'est-à-dire une explosion entrepreneuriale qui va faire de nous les leaders dans le cinéma, dans l'industrie automobile pendant quelques temps, jusqu'à l'arrivée de la Ford T, et même, ce sera interrompu par la guerre, mais ce sera repris après la guerre, dans l'aéronautique. La France est un pays d'entrepreneurs. Même la France d'avant la France, d'ailleurs, au passage, les Gaulois étaient de très grands entrepreneurs.
Alors justement, ça c'est des choses effectivement passionnantes. Les Gaulois ont beaucoup innové.
Bien sûr.
Les ordres monastiques ont beaucoup innové au XIIe siècle. La France de la belle époque, finalement, vous le dites aussi, et même quelque part, effectivement, la France de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale.
La France de l'après-deuxième guerre mondiale, c'était assez mal. La première partie des Trente Glorieuses a été ratée, mais les circonstances étaient difficiles. Mais quand le général de Gaulle revient en 58, il fait deux choses. C'est exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas très compliqué en réalité. Il remet de l'ordre dans les finances publiques. Donc, il appelle Pinet, qui remet un peu d'ordre dans les finances publiques et qui fait grosso modo un peu ce que Bayrou voulait faire quand il était premier ministre. C'était quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il appelle l'économiste le plus libéral de France, Jacques Rueff. Ça aussi, il le raconte dans ses mémoires. Il lui demande donc de ce qu'il faudrait faire pour relancer l'activité. Rueff fait, avec quelques experts, un plan très libéral. Je vous passe les détails. Le général de Gaulle le lit, trouve ça formidable. Il dit au gouvernement, appliquez tout. Bon, la France va connaître la deuxième partie des Trente Glorieuses, la plus brillante de tout l'Occident. Mais vous avez raison, Emmanuel, hein. La France de la belle époque, et si je veux faire un anachronisme qui va faire hurler les historiens, la France du XIIe siècle, c'est la Silicon Valley du monde. Hein. Les cathédrales gothiques, qui sont dans une cathédrale gothique, vous avez des centaines d'innovations techniques par rapport aux églises romanes. Les cathédrales gothiques, dans le monde entier, on les appelle les cathédrales françaises. Et les Anglais et les Allemands, je vais commettre un autre anachronisme, pardonnez-moi, mais Canterbury et Cologne, ça vient après, sur le modèle des cathédrales gothiques françaises.
Alors, simplement, et ça c'est peut-être une différence de taille avec aujourd'hui, chaque fois que la France connaît une période brillante, grâce à l'innovation, grâce à des politiques libérales, c'est quand même après avoir connu un effondrement tragique.
Oui.
Parce que là, vous avez cité effectivement la fin du Troisième Empire, les années folles, mais entre-temps, il y a Sedan.
Oui, oui. On n'a pas échappé, oui.
Au Moyen-Âge, il y a la défaite face aux Romains.
Oui, oui.
Il y a la défaite de 40.
Il y a Azincourt, il y a le 10 juillet 1940.
Exactement. Et donc, est-ce qu'il faut en passer par ces catastrophes pour enclencher les dynamiques de redressement?
Bah, c'est ce qu'on doit faire mentir. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre enjeu, en fait, à nous. C'est de ne pas en passer par là. Et c'est de faire mentir ça, c'est-à-dire de faire mentir cette idée qui est une régularité historique, mais qui n'a pas de, enfin, qui n'est pas un automatisme, si vous voulez. Voilà. Et mais force est de constater que historiquement, c'est quand la France tombe très bas et elle tombe plus bas que les autres pays. Hein, oui. Parce que Azincourt, le 10 juillet 1940, c'est pas rien. Hein, on en est fort heureusement très, très loin aujourd'hui. Voilà. Et donc, il faut éviter d'en passer par là.
Alors, d'où ma question, qui est une réflexion que m'avait fait Raymond Barre. Il se trouve que quand j'étais à l'Expansion, j'avais fait une des dernières grandes interviews de Raymond Barre vivant.
Oui.
C'était juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez du climat à l'époque, il y avait une euphorie, oui, Sarkozy va réformer l'État, vous en rappelez, vous étiez en plein au cœur de la machine, etc. Et là, j'avais demandé à Raymond Barre, je dis, ça y est, les réformes, c'est maintenant. Et il m'avait dit, pas du tout. Et je lui avais dit, ah bon, mais 2012... Et en fait, il avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, il m'avait dit, mais il faudra que ça aille beaucoup plus mal avant qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
C'est intéressant.
Est-ce que vous pensez que la France va assez mal aujourd'hui pour être... réformable et pour entamer son redressement.
Je pense que la France est réformable, on va en parler avec du courage, de la lucidité, mais je vais dire quelque chose, Emmanuel, mais qui est très impopulaire. Je pense que la France va moins mal qu'on ne le dit, en réalité. Vous voyez ? Bien sûr qu'il y a des problèmes économiques, bien sûr qu'on a un énorme problème d'endettement public, bien sûr qu'il y a trop de normes, etc. Mais je pense que tous ces problèmes, en réalité, ne sont pas extrêmement compliqués à régler. Et quant à des problèmes qui semblent à nos concitoyens comme étant vraiment des problèmes insurmontables, l'organisation des services publics, l'hôpital, les problèmes d'immigration, etc. En fait, quand vous avez la chance de voyager un peu, vous voyez que dans tous les pays du monde, vous avez exactement les mêmes débats. Donc la France fait face à des défis, mais la France ne va pas très mal. Alors si votre question c'est, est-ce que aujourd'hui on est dans la situation d'Azincourt ou du 10 juillet 1940, la réponse est non, fort heureusement, et il faut se battre contre ça. Mais en même temps, nous, notre rôle... Enfin, moi, je ne vois pas mon rôle dans le débat public, Emmanuel, comme quelqu'un qui consisterait à dire, attendons vraiment que tout aille mal, etc. Ça ira mieux.
Votre rôle dans le débat public, Nicolas, c'est celui de ce livre qui est de dire, jamais la France ne s'est redressée sans spasme.
Oui, d'accord, mais je vous dis, je le répète, je pense qu'aujourd'hui, vous faites un peu ce que Général de Gaulle a fait en 58, c'est-à-dire, vous remettez de l'ordre dans les finances publiques, c'est pas extrêmement compliqué, vous faites un grand plan de simplification administrative, normative, etc. Et je pense que là aussi, en réalité, c'est parfaitement à notre mesure. Vous allez voir, la France, c'est ce que me disent les étrangers, la France, c'est un pays d'entrepreneurs et d'ingénieurs. On devrait être en ce moment à l'ère de l'intelligence artificielle, des robots, des biotech, etc. Mais on devrait être, sur le papier, les rois du monde. Entrepreneurs, ingénieurs. La source vive, elle est chez nous. C'est fantastique.
Alors, Jean-Denis Combrexelle, la France est un pays d'ingénieurs. La France est un pays...
D'entrepreneurs.
Mais la France est aussi un pays de hauts fonctionnaires.
Oui.
Et là, on voit bien que on a effectivement dans ce sursaut, il va falloir que l'administration prenne sa part. Et vous dites, d'ailleurs, Jean-Denis Combrexelle, notre pays a aujourd'hui plus besoin de faire que de dire. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle autant aujourd'hui et on fait aussi peu ?
C'est un sujet. C'est-à-dire que un des sujets, c'est que la démocratie, moi je dis souvent, c'est comme un camion. Il faut savoir conduire et il faut bien le conduire. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de conduire le camion, mais qui ne le conduisent pas. Donc, il faut justement, c'est là qu'il y a ce qu'on peut appeler une frustration démocratique. C'est-à-dire que les gens, les électeurs, les contribuables, les usagers entendent en permanence des responsables politiques qui font des annonces. Et dans les villages, dans les petites villes, dans les villes moyennes, y compris aussi dans les grandes villes, il y a une sorte de décalage très important entre ce que peuvent entendre les gens en termes d'annonces sur les médias et puis le concret. Et donc, c'est là qu'il y a une responsabilité sans doute, alors pas simplement des responsables politiques, mais aussi des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires.
Justement, dans votre précédent livre, pour lequel on vous avait reçu aussi dans la librairie de l'Écho, vous exploriez un petit peu les rouages de la simplification, ou plutôt de la non-simplification, pourquoi c'était aussi difficile. Nicolas Bouzou nous dit, il faut faire en simplification, on l'a fait sous Napoléon Ier, ça n'a pas été si compliqué. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible aujourd'hui de faire une espèce de grand nettoyage pour simplifier?
Alors, c'est possible à la condition qu'on se rend... C'était le sujet à la fois du précédent livre et puis de celui-là. C'est possible à la condition que tout le monde ait conscience que c'est... Je dis pas ça pour dédouaner les fonctionnaires, loin de là, parce que je considère qu'ils ont leur part de responsabilité, mais c'est que tout le monde se rende compte que il y a une responsabilité. Autrement, une responsabilité collective. Autrement dit, quand... alors, Milei n'est pas mon modèle, hein, le président argentin, mais quand on veut supprimer une structure administrative qui est plus ou moins complexe, quand on veut modifier la composition des attributions d'un ministère, qui est-ce qui résiste ? C'est plus souvent encore ce qu'on appelle, ce qu'il est de bon ton d'appeler la société civile que les fonctionnaires. Donc il y a un sujet, c'est-à-dire que la question qu'il faut comprendre, c'est que notre société, l'ensemble de la société française, est attachée à une certaine forme de complexité.
Oui, mais vous dites bien, il y a une espèce de contradiction aujourd'hui entre la demande d'État et le manque de moyens de l'État. Mais comment ce pays d'entrepreneurs et d'ingénieurs est-il devenu un pays qui s'en remet finalement, qui remet son sort entre les mains de l'État et des hauts fonctionnaires?
Oui, et le paradoxe, c'est que la génération actuelle de hauts fonctionnaires, quoi, il fut un temps, les hauts fonctionnaires, ils étaient gavés, si j'ose dire, aux 30 glorieuses, et c'était François Bloch-Léné qui écrivait des bouquins disant, finalement, c'est grâce aux hauts fonctionnaires qu'on fait les réformes et qu'on fait avancer le pays. Bon, maintenant, les 30 glorieuses, c'est fini. Et les hauts fonctionnaires sont les premiers à considérer que c'est pas eux qui ont la réponse à tout, et que la vraie réponse, pour reprendre l'expression de Nicolas, c'est les ingénieurs, c'est les chefs d'entreprise, c'est les entreprises.
Oui, mais en fait,
après, il y a des grosses pesanteurs qui supposent que tout le monde tire dans le même sens.
Cette notion d'État profond, elle vient pas de nulle part. Et en fait, on a l'impression, ce que vous expliquez dans votre livre, d'ailleurs, c'est qu'en fait, peut-être sans doute par lâcheté et par calcul politique, les élus, les ministres, les dirigeants politiques ont délégué finalement une partie de leurs décisions aux hauts fonctionnaires qui, eux, n'ont pas cette légitimité démocratique, et que finalement, c'est un peu ça qu'on appelle cet état profond.
Oui, en même temps...
Vous ne croyez pas beaucoup, vous, à cette notion d'état profond?
Si, je crois qu'il y a des... dans les hauts fonctionnaires, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des pas bons. Et moi, justement, si j'écris ce livre, c'est un peu, c'est une sorte de testament vis-à-vis des jeunes générations. Et je pense que il faut que les hauts fonctionnaires soient en quelque sorte obsessionnels sur l'efficacité. Et que au sein de l'État, on est dans une sorte d'obligation de moyens. Et quand on va demander à un directeur de l'administration centrale, qu'est-ce que t'as fait pour remplir tel objectif, il va vous répondre, j'ai fait des lois, j'ai fait des décrets, j'ai fait des circulaires. Et c'est pas les lois, c'est pas les décrets, c'est pas les circulaires qui font avancer le camion, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. Et donc, il faut que on a changé l'ENA, on a changé beaucoup d'écoles de hauts fonctionnaires. Il faut que les jeunes hauts fonctionnaires aient cette obsession du résultat, qui ne se traduit pas nécessairement par des choses spectaculaires. C'est ça un peu l'enjeu, mais avoir des résultats, changer telle statistique, changer les structures, et pas simplement se dire j'ai fait tout ce que je pouvais pour.
Mais vous dites l'appartenance à la noblesse d'État a une contrepartie,
oui.
Le courage.
Oui.
Mais qui en fait preuve aujourd'hui finalement ?
Plus que non, peut-être qu'on ne le pense, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires, moi je connais des hauts fonctionnaires qui sont extrêmement courageux. Alors ça se voit pas nécessairement. C'est-à-dire que je dis c'est un peu l'effet Modiano et Bernard Pivot dans le livre. Je dis que ceux qui parlent le plus de leur métier sont pas forcément ceux qui le font le mieux. Parce que pour les romanciers c'était un peu ça. Quoi. Autrement dit, je pense qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui font preuve de courage. Mais ça se voit pas. Ça fait 45 ans que j'ai été haut fonctionnaire. Les décisions les plus courageuses que j'ai prises, personne ne les connaît. Donc, personne ne m'en sait gré d'ailleurs. Hein. En revanche, il y a des décisions, des décisions ou des rapports que j'ai faits, tout le monde m'en parle. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais ce n'est pas forcément ceux-là qui ont modifié les choses. Donc, il y a une dose de courage et de volonté. Moi, je termine le bouquin en parlant de l'étrange défaite de Bloch. Hein, c'était un moment, là aussi on parlait de Monroy tout à l'heure, c'était un moment où la France connaissait des très très graves difficultés, et il y avait une sorte de faillite des élites, de trahison des clercs. Et donc je pense que l'État, ce qu'on peut appeler l'État profond, il n'est pas contre la société. du tout. Quoi.
Est-ce
en tout cas, il faut.
Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une confusion entre l'intérêt de l'État et l'intérêt général?
Bah, il faudrait pas. Quoi
comment... beaucoup honnêtement, on se dit mais beaucoup de réformes sont compliquées. Regardez toutes ces hautes instances qui finalement on se dit allez on crée des comités trucmuches, oui. etc.
Tout
ça, tout ça sert à rien et on se dit finalement on a une machine à fabriquer de la norme, de l'impôt, de la réglementation qui semble un peu aujourd'hui hors de contrôle et qui semble et là on se dit bah on pense. On pense à l'intérêt de l'État et on se dit mais c'est pas l'intérêt général. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui confondent la défense de l'État avec la défense de l'intérêt général.
Bah, c'est ce que j'appelle la culture du résultat. L'intérêt général c'est le résultat. Donc il faut avoir cette conscience ça, mais cette conscience là. Mais ce qu'il y a la difficulté c'est que on présente souvent la démocratie sous la forme de l'évidence. La démocratie, c'est pas de choisir entre une bonne et une mauvaise décision, c'est de choisir entre des décisions qui toutes présentent leurs inconvénients. Mmh. Et ça, c'est voilà. Donc, et souvent, on dit bah voilà, y a la culture de l'évidence et la culture de la dérision. Tel ministre, tel gouvernement a pris telle décision, c'était évident qu'il fallait pas la prendre. Alors qu'en réalité, si on avait pris l'autre, on se serait aperçu qu'elle aussi avait présenté ses propres inconvénients. On a parlé des retraites. On peut parler de tous les sujets du moment. Gare aux partis, moi je le dis dans le livre, il faut faire attention, il y a certains partis politiques qui présentent tout ça sous le sceau de l'évidence et de la simplicité. Dans une démocratie moderne, dans une société moderne, il faut admettre que c'est ni évident
est-ce qu'on
ni
simple. Est-ce qu'on peut combiner la complexité avec l'action?
Ben c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est parce que je pense
parce qu'en même temps quand on parle de sursaut, on se dit bah sursaut il y a besoin d'un élan etc. Or vous dites très enfin vous votre conviction c'est qu'en fait pour avancer une bonne réforme c'est une réforme qui doit être réalisable et raisonnable.
Oui.
Donc les grands soirs, tout ça, vous n'y croyez pas du tout.
Moi, je dis que la meilleure façon de tuer une réforme, si vous voulez, quand vous êtes dans l'État, vous avez deux catégories de personnes qui sont opposées à la réforme. Vous avez ceux qui disent frontalement en face de vous, je suis contre la réforme. Bon, ouais. Là, ceux-là, vous les avez. Bon. Et il y a ceux, alors ça, c'est d'expérience que je parle, ceux qui viennent dire, vous avez raison, c'est une bonne réforme, mais vous n'allez pas suffisamment loin.
Ah oui.
Et ça, oui. Et le loin est tellement loin qu'en fait, jamais la réforme sera faite. Et donc, quand je dis que c'est raisonnable, c'est pas de dire de faire des petites réformes, mais simplement de se fixer un but qui est atteignable. C'est ça le sujet. Et le sujet du livre, c'est de dire que derrière tout ça, on parlait de De Gaulle, on peut parler de Churchill, on peut parler de gens comme ça, il y a la qualité des gens. C'est autrement dit, moi, la conviction profonde de ce livre, c'est que pour avancer, c'est pas des process, c'est pas des procédures, c'est pas des organisations.
C'est des leaders.
C'est des gens qui portent, qui ont le courage et qui ont de la qualité humaine et qui se rendent compte que pour ça, faut pas être tout seul, faut manager d'autres, faut partager des valeurs, faut partager des implications. C'est ça. Et on a trop tendance, notamment en France, à parler en permanence de procédures, de lois, d'instances, et vous avez raison, on crève un peu sous les instances.
Mais est-ce qu'on a connu dans l'histoire quand même des grandes périodes de modernisation de l'État, assez radicales, qui ont accompagné ces grandes périodes historiques? Est-ce que les conditions vous semblent réunies aujourd'hui?
Il y a une question, je me tourne vers les historiens, il y a une question un peu historique, c'est que, est-ce que Napoléon aujourd'hui, De Gaulle aujourd'hui, si tant est que... D'abord, est-ce que Napoléon et De Gaulle seraient élus? Je sais pas. Et ensuite, est-ce que cette forme de... Mais c'est une question, hein, j'ai pas forcément la réponse. Autrement dit, cette forme de figure fonctionne véritablement dans les démocraties modernes? C'est une question.
Bah, encore une fois, ça ne fonctionne que quand ils émergent de situations dramatiques.
Oui, oui, oui.
Churchill, avant d'être le personnage d'ampleur historique qu'on connaît, a quand même pas eu un parcours politique extrêmement brillant.
Je pense que l'histoire est très surprenante, en fait, et que des personnes peuvent surgir quand on s'y attend pas, mais vous avez aussi des personnes qui peuvent être à contre-emploi. Je prenais l'exemple de Napoléon III tout à l'heure, à mon avis, c'est vraiment un exemple emblématique. Napoléon III, il avait fait un livre, il était vaguement connu pour avoir fait un livre sur la pauvreté, il a été élu plutôt sur un programme de gauche. Or, il a été l'un des présidents les plus politiques de l'offre, pour refaire un autre anachronisme, et l'Empire a prolongé cette politique.
Mais là, on est dans une période d'élection. Puis on va l'être encore de plus en plus. Donc quand moi j'entends, en ce moment on est dans les élections municipales. Alors bien sûr on vote pour celui qui dans le programme est le plus proche de ce qu'on pense. Il y a des connotations bien évidemment politiques et c'est normal. Mais est-ce qu'on s'interroge sur la capacité de la personne à gérer une commune? Par exemple, gérer une commune, c'est pas nécessairement la capitale. Gérer une commune de 3000 habitants. Ça suppose des qualités.
Est-ce que vous faites une différence entre manager public et manager dans le privé?
Pas trop. Beaucoup moins qu'on ne pense. Alors, c'est pas, faut pas non plus verser dans la démagogie et dire que c'est la même chose parce que il y a un mode de fonctionnement qui est différent. Mais moi, ce que je dis dans le livre, c'est que il y a pas. Je pense qu'un bon manager dans le privé serait plutôt bon manager dans le public et inversement. Autrement dit, il y a des qualités qui sont exigés de part et d'autre, qui sont beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Dans mon esprit, il n'y a pas une sorte de mur de Berlin entre le monde de l'entreprise et puis de l'autre côté, le monde de l'administration et le monde de l'État. Il y a la qualité managériale. Moi, je dis, par exemple, une des qualités managériales, c'est le goût des autres. C'est le goût de s'intéresser aux autres, de manager. Bon, bah, ça, c'est autant vrai du côté de l'entreprise que du côté du secteur public. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que le livre intéresse finalement. Moi, j'ai beaucoup de retours de la part des entreprises.
Ah oui.
Voilà.
Bon. La situation la plus proche de la nôtre, très vite, Nicolas. Vous savez, est-ce que c'est pas finalement le Royaume-Uni de la fin des années 70?
Oui.
Ou sans drame, ou sans catastrophe. Ouais. Finalement, le pays a quand même changé d'orientation.
La France de 58, moi, je trouve que c'est pas idiot quand même pour rester dans des pays.
Je vais parler du rapport UEF.
Mais juste en 15 secondes, parce que
pas plus.
Il y a quelque chose de très profond dans ce qui a été dit, c'est le fait que les normes, elles sont demandées par la société et même par les entreprises. Ce qui veut dire que, avant de parler des personnes, il y a tout un combat culturel et intellectuel.
Et parfois justifié aussi par la complexité croissante du monde. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Jean-Denis Combrexelle, Du bon exercice, du pouvoir, chez Odile Jacob. Nicolas Bouzou, L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France, aux éditions IXO. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Vous retrouverez évidemment l'étude de la semaine, d'autres travaux passionnant, publié par tout un tas d'instituts dont on vous fera le compte-rendu. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand Manitou de la rubrique livre à Alternative Économique, le magazine. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré lui aussi de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian, un choix historique, Christian, puisque vous avez choisi un livre qui nous raconte l'épopée de Kuhlmann, grande entreprise de la chimie. C'est aux éditions Rêve de C par Éric Langlinet.
Oui, pratiquement deux siècles d'existence pour cette entreprise, c'était une gageure parce que toutes les archives ont brûlé, enfin ont disparu, donc il fallait quand même arriver à trouver des choses, et les auteurs ont trouvé des choses, donc c'est vraiment passionnant, et c'est intéressant pour ce qu'on apprend sur Kuhlmann, mais moi ce qui m'a fasciné, c'est que c'est vraiment cette entreprise, j'ai trouvé le reflet du capitalisme français en général sur les deux derniers siècles. Alors bien sûr, on commence avec Frédéric Kuhlmann, 1825, c'est un Lillois. Évidemment, le textile, c'est l'industrie phare. Ouais. Et le textile, on a besoin de chimie. Donc voilà, c'est pas un hasard que cette chimie-là, elle soit à Lille. On voit tous ces bourgeois lillois qui s'entremêlent, qui se prêtent de l'argent, qui marient leurs enfants. Donc on est vraiment typiquement dans le capitalisme du nord de la France du début du 19e siècle. Évidemment, comme ils sont dans le textile, ils sont protectionnistes. Et la signature du traité de libre-échange, ils n'aiment pas du tout. Et Kuhlmann va avoir un petit peu de mal à s'en sortir. On passe à la fin du 19e, début 20e, c'est la montée des revendications ouvrières en plein chez Kuhlmann. On a la montée des revendications ouvrières, des premières grèves et tout ça. Donc, on est vraiment dans le capitalisme français de cette époque. La Première Guerre mondiale, évidemment, comme on est au nord, bah, les Allemands vont arriver tout de suite dessus. Ils vont démonter un petit peu les usines. Mais l'entreprise va réussir à s'en sortir avec de la commande publique en commençant à attaquer le marché des colorants. Entre deux guerres, là, l'innovation retombe un peu. Mauvais placement financier avec la crise, bah, évidemment, ça, la boîte n'est pas terrible. Et puis, on arrive à l'entre-deux-guerres, enfin, pardon, la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la Deuxième Guerre mondiale, on a pratiquement un résumé de tout ce qui s'est fait dans le capitalisme collabo et en général du capitalisme français. C'est un désastre économique parce que l'activité, évidemment, elle chute. C'est un désastre humain parce que le patron qui était juif tient les commandes le plus longtemps possible. Il finit par se faire arrêter avec sa famille, déporté, assassiné. Et c'est un désastre moral parce qu'il reste un autre dirigeant qui, lui, va faire une des rares John Weicher avec les Allemands, en l'occurrence avec Iggy Farben, pour faire Francolor, la fameuse société Francolor, qui va vraiment y aller à fond pour nourrir l'effort de guerre allemand. Ensuite, alors j'ai trouvé que la dernière partie était un petit peu moins intéressante. Pourquoi ? Parce que on est dans le plus traditionnel. Il y a aussi le fait que l'illustration est un petit peu moins bonne à ce moment-là. Mais quand même, on a encore les stigmates du capitalisme français de l'époque. Les années 60, après l'ouverture du marché commun, ben il faut créer des champions nationaux, nous disent De Gaulle et Pompidou. Et à ce moment-là, eh ben on a le rapprochement entre Kuhlmann et Ugine, puis Péchinet, Ugine, Kuhlmann. Et puis à la fin, on a la nationalisation par la gauche qui essaie de redresser l'entreprise, mais ça fonctionne pas. Et du coup, l'entreprise va disparaître à la fin des années 90, au début des années 2000. Vraiment, c'est pas géographique, il manque juste une ligne, je trouve, dans les livres, mais pour nous dire, attention, les produits chimiques quand même qu'on respire, ça a détruit beaucoup la santé. Mais à part cette ligne qui manque, j'ai trouvé que c'était un beau récit historique, sans être agiographique. Hein, on nous dit que travailler chez Kuhlmann, c'était un bagne chimique, beaucoup d'accidents du travail. Donc j'ai trouvé ce livre intéressant.
Jean-Marc, avez-vous aimé cette plongée historique ?
Oui, j'ai aimé ce livre et j'y ai vu aussi une histoire du capitalisme français, mais pas exactement la même histoire que Christian. D'abord, il faut regarder le produit. Le produit, c'est un livre qui est très grand, d'une qualité d'édition exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est un livre, vous savez, c'est donc le bicentenaire 1825, ouais. C'est le bicentenaire de l'entreprise, donc de ces livres un peu à la gloire de l'entreprise, sans être, comme l'a dit Christian, géographique. Il y a véritablement une étude historique et ils rappellent, les auteurs, qu'effectivement, c'est assez difficile de faire les histoires des entreprises, parce que les entreprises, en général, même quand elles ont des services d'archives, elles ont tendance à considérer que c'est plutôt accessoire, et donc, elles peuvent en détruire quand elles ont besoin de place. Mais alors, pourquoi je dis que je n'ai pas lu exactement la même histoire que Christian ? Parce que je pense que on commence d'abord par un personnage qui arrive d'Alsace et qui va être traumatisé par la guerre de 1870. Son lieu de naissance va échapper à... Donc, un personnage qui a une formation de chimiste et qui crée une entreprise privée. Et progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, on va finir par la nationalisation, et progressivement, l'État dessaisit. Ce capitalisme de ses prérogatives. On commence par, alors, Kuhlmann essaie effectivement de s'insérer dans le tissu politique, donc il est conseiller municipal à Lille, il est conseiller général au département du Nord, mais il va pas au-delà, il cherche pas à être maire de Lille, il cherche pas à être président du conseil général, il veut simplement être bien vu des autorités. Arrive le drame de 1914, parce que 1914, pendant 4 ans, Lille est occupée, donc l'entreprise se redéploie, et à ce moment-là, l'État crée une commission nationale des matières colorantes. Et l'État commence à se mêler des affaires. Donc, premier élément, la famille Kuhlmann est progressivement écartée, on fait venir des ingénieurs, d'abord des centraliens, puis deuxième élément, des polytechniciens. Or, les polytechniciens, c'est des ingénieurs d'État. On parle de Raymond Baird, donc Raymond Baird, il est d'abord fonctionnaire, et puis il arrive chez Kuhlmann, bon, effectivement, donc il met en place, avec sa vision de l'entreprise, à la fois il est efficace, et puis c'est aussi la capacité de donner un coup de fil à un de ses camarades de promotion, qui est au ministère de l'économie de l'époque, donc il y a... Et donc, il y a une espèce de connivence qui commence à apparaître. La famille Kuhlmann, progressivement, disparaît. On la voit plus. Et puis, on arrive, effectivement, à la 4e République. C'est donc la mise en place, l'État, la planification. Et ça se termine par la nationalisation en 81. Et donc, je dis, c'est ça le capitalisme français. C'est des gens qui sont au départ créatifs, innovants, et progressivement...
Ils se font phagocyter.
Sans l'État, on aurait disparu.
Progressivement, l'État... les mange, les détruit, alors plus ou moins subtilement, il commence par leur envoyer des polytechniciens et ensuite il les nationalise et on n'en parle plus, l'entreprise finit par disparaître.
Allez, après la saga historique, la projection dans le futur, avec votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de François Facchini, Quelle fiscalité pour demain, aux éditions de Bouygues Supérieure.
Alors, c'est un livre qui est d'abord, dans sa présentation, qui est moins prestigieux. Il n'y a pas toutes ces images, il y a des graphiques. Et donc, François Facchini, donc, c'est un spécialiste de finances publiques, qui construit son livre d'emblée en disant que il y a une tendance naturelle chez ses collègues universitaires à être plutôt favorable à une forme d'égalitarisme fiscal. Et il dit, moi, je vais clairement expliquer pourquoi ils sont à côté de la plaque. Donc, il fait une première introduction où il explique un peu ce que sont les grandes théories de l'impôt. Et puis ensuite, il examine dans chaque chapitre un impôt, un type d'impôt, en disant c'est un bon impôt ou c'est un mauvais impôt. Et à chaque fois, chaque chapitre est construit en disant voilà ce que dit plus ou moins la théorie économique, y compris avec des équations qui sont des équations d'arithmétique élémentaire. Et c'est pas des équations très très compliquées à saisir. Ensuite, son point de vue. Et après, deux pages qui s'appellent Pour conclure. Et alors la conclusion de tout ça, c'est que il considère que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine sont des impôts qui sont à la fois probablement injustes parce qu'on leur donne une vision, notamment au travers de la progressivité qui est une vision un peu confiscatoire. Le bon impôt, ce serait plutôt la TVA, l'impôt sur la dépense. Et de jamais oublier que le but de l'impôt, c'est de financer les dépenses publiques et que moins il y a de dépenses publiques, mieux ça vaut sur le plan fiscal. Donc c'est un livre qui n'est pas forcément dans l'odeur du temps, en disant il faut de la justice fiscale, il faut faire payer les riches, mais c'est un livre qui est à la fois bien écrit, très érudit et rassurant.
Bon, Christian.
Quand on a fini l'introduction, on sent les années 30 qui remontent et qui vont parcourir tout le livre. Alors, il y a les bolcheviks ont gagné la révolution russe, donc il faut absolument proposer autre chose qui va de l'autre côté. Donc, Ludwig von Mises, Hayek sont pas loin. Là, je pense que pour l'auteur, le programme fiscal du Nouveau Front Populaire, enfin, c'était l'équivalent des bolcheviks. Et donc, il faut absolument aller de l'autre côté. Donc, on a un programme sérieux, fiscal, mais complètement libertarien. Ouais. Jean-Marc a dit, on essaie d'évaluer les bons et les mauvais impôts. Tous les impôts sont mauvais. Hein. Je cite l'auteur, l'impôt reste un mal. Voilà, c'est la base quand même.
Et donc, théorie, mais il ne dit pas qu'il partage cette théorie.
Oui. Il nous parle quand même de la théorie de l'impôt LA, qui nous dit quand même que, bon, évidemment, quand on a des taux bas et une assiette large, c'est mieux, mais ça, c'est ni de droite ni de gauche. Ça ne nous dit rien sur les politiques qu'il y a à suivre derrière. Donc, on se retrouve vraiment dans cette ambiance complètement libertarienne où effectivement le bon impôt c'est uniquement la TVA, tous les autres ils font s'en débarrasser. L'impôt sur le revenu progressif, alors ce qu'on vous lisez c'est pratiquement l'équivalent des sept plaies d'Égypte. Hein. Il y a pas un problème au monde qui soit pas causé par l'impôt progressif. Il y a des passages assez orwelliens, réduire les inégalités c'est injuste. Enfin vous avez des phrases un petit peu comme ça. Et à la fin vous vous dites ok, il défend un programme libertarien. Très bien, c'est technique, c'est parfait. Mais vous, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut mettre ça en place. Donc si l'auteur croit vraiment à ce qu'il veut, c'est là qu'on retrouve encore une fois les années 30, il faut qu'il soit en faveur d'un programme autoritaire qui va mettre ça en place. Et vous dites, je me dis, bon, voilà, encore un économiste, il ne fait pas attention aux considérations politiques. Et je me trompe, l'auteur me détrompe, parce qu'il faut aller jusqu'à la dernière page, au dernier paragraphe de la dernière page, où l'auteur nous dit, vous savez, quand la majorité ne prend pas les bonnes décisions, il faut se passer un petit peu de la majorité. Il nous cite Benjamin Constant qui dit qu'il faudra trouver une organisation politique, parce que c'est une organisation politique, qui montre que quand il y a trop de demandes sociales, il faut savoir dire non, quoi. Et donc réduire les demandes sociales pour l'État-providence et donc réduire les impôts. Et là, vous vous dites, c'est pas du tout Benjamin Constant la référence, c'est Carl Schmitt. On est vraiment dans l'illibéralisme régressif. Hein. Carl Schmitt, les années 30, 1933, qui nous dit il faut absolument donner de la compétitivité aux entreprises, donc il faut réduire l'impôt. Comme on ne peut pas réduire l'impôt à cause des demandes sociales, il faut supprimer la demande sociale, il faut un pouvoir autoritaire. Donc, on arrive à ça quand même au dernier paragraphe, mais c'est bien le principe de tous les projets libertariens. Celui-là est vraiment très sérieux, très bien organisé, c'est un vrai spécialiste, mais tous les projets libertariens ont besoin d'un pouvoir politique autoritaire pour le mettre en place.
Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver et de mettre un coup de projecteur sur une étude qui nous a particulièrement séduit cette semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est le travail publié par le cabinet PwC, une étude événement, l'étude RH Open Fears, étude qui analyse les attitudes et comportements de 50 000 salariés dans 48 pays et qui effectivement a des conclusions absolument spectaculaires. On voit ça avec Nicolas Bourgeois. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes partenaire chez PwC, vous êtes le responsable de cette grande étude, alors beaucoup d'enseignements à en tirer. Allez, je commence par celui qui, moi, m'a le plus stupéfait. Ça concerne évidemment l'intelligence artificielle. Pour la première fois, l'usage de l'intelligence artificielle recule en entreprise. Plus de la moitié des salariés français n'utilisent pas l'IA.
Oui, et puis à peine 7% l'utilisent tous les jours. Donc effectivement, c'est un petit peu inquiétant, sachant que pour le reste du monde, on est plutôt aux alentours de 14%. Donc on utilise quotidiennement deux fois moins l'IA que, on va dire, les autres pays du monde. Et en Europe, je crois qu'on est, selon l'étude, avant-dernier. Donc alors, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'implémentation de l'IA en France, effectivement.
Alors, on l'utilise moins, vous l'avez dit. Mais c'est surtout qu'on est aussi moins nombreux à considérer qu'elle augmente notre performance au travail par rapport à ce que déclarent les salariés dans les autres pays du monde.
Oui, alors ceux qui utilisent quotidiennement ou de manière hebdomadaire l'IA dans les grands groupes ou dans les PME ou au quotidien dans leur travail, disent quand même que ça améliore assez nettement la manière de travailler. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on s'attendait à des progrès bien plus importants, des impacts plus importants. C'est sans doute, on va peut-être en parler, mais le fait que souvent l'IA, elle est un peu en décalage dans ses usages, dans les entreprises, on n'a pas très bien mis l'IA au service des salariés pour améliorer leur travail, au-delà de parler de productivité, simplement de faire les choses mieux.
Mais pourquoi ? Parce que finalement... on a laissé ça à la liberté de chacun, c'est-à-dire que chacun va bricoler avec sa petite IA sur son ordinateur.
Mais c'est exactement le contraire, puisqu'en fait, si on regarde les pratiques des grands groupes, ce qu'on peut constater par rapport à d'autres pays, c'est d'abord, la France est partie un petit peu en retard, il y avait quand même une forme, un peu comme sur l'époque d'Internet, une forme de décalage entre l'arrivée de la technologie et l'usage dans les entreprises. Ensuite, plutôt méfiance, impact juridique, technologie très largement anglo-saxonne, voire américaine. Et donc, on a eu une petite année de retard, en fait, dans l'adoption, comme on dit, dans la conduite du changement, dans le fait d'intégrer ces outils aux pratiques de travail. Donc c'est vraiment ça qu'on met en évidence. C'est sans doute l'hypothèse principale de ce décalage d'usage lié à la manière dont en particulier les grands groupes l'ont intégré ou sont en train de l'intégrer. C'est pas assez intégré dans les processus de travail, ça c'est très clair. Et puis, autre élément hyper déceptif, c'est que l'IA, en fait, au travail, elle est moins utilisée que l'IA personnelle. Il y a quasiment un tiers des Français qui l'utilisent tous les jours dans leur vie professionnelle. Et vous voyez, on l'a déjà dit, 7% dans la vie professionnelle. Et ce décalage-là, il est
un quart dans la vie personnelle. Un tiers dans la vie personnelle, c'est ça?
Ouais, c'est ça, un tiers des
et 7% dans la vie professionnelle.
Et 7% seulement dans la vie professionnelle, cet écart, il est énorme. Ça veut dire qu'en fait, on trouve vraiment un usage intéressant à l'IA. Peut-être qu'on rigole avec dans la sphère personnelle, mais pas seulement. Je pense que beaucoup d'entre nous l'utilisent pour les démarches administratives, pour des trucs très utiles, pour des courriers aux professeurs ou à l'école de ses enfants. On l'utilise quotidiennement assez efficacement dans la sphère personnelle et le décalage, il est sur l'usage dans l'entreprise qui vraisemblablement est un petit peu trop encadré et pas assez articulé. C'est-à-dire on ne dit pas assez aux gens, tu peux utiliser tel outil d'IA pour traiter tel processus, telle tâche administrative, telle tâche technique, telle information qui va te faire gagner du temps. Donc c'est cette éducation-là, on appelle ça l'adoption, qui effectivement est un peu manquante en France.
Alors, autre fait marquant et peut-être autre exception française, les collaborateurs des entreprises françaises croient moins qu'ailleurs en la vision stratégique de leur entreprise et croient moins qu'ailleurs en la capacité de leurs dirigeants à atteindre leurs objectifs. Il y a une défiance quand même vis-à-vis de l'entreprise et de ses dirigeants.
Oui, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle pour les dirigeants français. On peut le dire très, encore plus simplement que ce que vous venez de dire. Les salariés ne croient pas suffisamment dans la vision de leurs dirigeants. Et ça, c'est dommage. C'est sans doute un déficit d'explicitation de la stratégie. C'est sans doute aussi un déficit de communication. Mais c'est surtout le fait qu'au quotidien, on a du mal à relier son activité à vraiment ce que ça va changer dans l'entreprise.
Et pour la
ça,
bonne
il y a des
nouvelle.
Managers de proximité.
La bonne nouvelle, quand même, Nicolas, la bonne nouvelle, ouais. C'est que finalement, les jeunes de la génération Z sont plus satisfaits au travail que leurs aînés.
Alors ça, c'est une super nouvelle, parce que qu'est-ce qu'on leur a tapé dessus à la Gen Z en disant qu'elle était désinvestie, qu'elle ne croyait pas au collectif, qu'elle ne voulait pas manager, etc. Bah, qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération Z? Bah, c'est quelque chose d'assez simple, elle a pris un peu d'âge. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de collaborateurs de la génération Z, qui ont donc 28 ans mécaniquement, et qui commencent à manager des petites équipes, qui commencent à voir l'utilité du collectif. Donc on commence à voir quand même des Gen Z qui bougent sur son rapport au travail, qui trouvent par exemple que le job managérial, il est très difficile, mais il est intéressant, alors qu'avant, ils n'avaient vraiment pas envie de devenir manager, et ils croient davantage dans la performance collective, là où avant, on les faisait passer pour des égoïstes.
Merci beaucoup, Nicolas Bourgeois, partenaire chez PwC. Allez, tout de suite, d'autres études et d'autres chiffres.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et coup de projecteur sur cette étude événement de Cofidis, acteur majeur du crédit, qui dévoile les résultats de la deuxième édition de sa grande enquête menée en partenariat avec CSA Research sur les détenteurs de crédit en France. Plusieurs conclusions importantes. La plus importante sans doute et la plus réconfortante en ce début d'année 2026, pour la première fois depuis 2012, il y a plus de Français qui estiment leur pouvoir d'achat élevé, 23%, que de Français qui estiment leur pouvoir d'achat faible, 20% seulement. Le montant moyen emprunté des crédits à la consommation aujourd'hui est de 15 460 euros. C'est presque 300 euros de moins qu'en 2024. Donc ça aussi confirme un petit peu l'amélioration du pouvoir d'achat. Le crédit à la consommation, autre conclusion importante, est avant tout perçu comme un levier de financement de projet que comme un outil de gestion budgétaire pure du budget. Donc pour ceux qui le souscrivent, un crédit à la consommation, 90% se déclarent toujours serein quant au remboursement de leur mensualité. Les cadres et les professions libérales sont ceux qui souscrivent le plus de crédits à la consommation. Et puis on emprunte surtout pour financer l'achat d'un véhicule ou faire des travaux dans sa maison. Et puis, point intéressant, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire sont les régions où l'on souscrit le plus de crédits à la conso. À l'inverse, les régions où les habitants souscrivent le moins de crédits sont la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et aujourd'hui, c'est celui de notre éditorialiste international, Mathieu Jolivet. Mathieu, alors vous avez choisi de nous faire voyager aujourd'hui, un road trip économique. Ça s'appelle « Les chemins de la colère ». C'est écrit par Antonio Rodriguez Castiñeira, ouais. Et c'est publié chez Bayard. Qu'est-ce que c'est que ce road trip économique?
Alors, il faut savoir qui est Antonio Rodriguez Castiñeira. En fait, c'est un fils d'immigré de Galice. Ses parents, dans les années 60, ont fui la Galice et sont partis s'installer dans le Jura, côté Suisse.
D'accord.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va devenir journaliste économique à l'AFP. Antonio Rodriguez Castiñeira, il va couvrir la chute de Lehman Brothers.
D'accord.
Et ensuite, il va couvrir toute la crise financière et la crise des dettes souveraines depuis les grands sommets internationaux. Donc, il va se faire tous les G20. Il va passer beaucoup de temps à Washington, au FMI, beaucoup de temps à Bercy, beaucoup de temps à Bruxelles. Et donc, il faut avoir ce profil pour comprendre le déclic de ce livre qui est lié à un choc personnel, lié à sa mère, où il va entreprendre un road trip économique, où il va partir en taxi, départ de Galice, là où étaient ses parents.
D'accord.
Il va refaire le chemin d'immigration de ses parents, qui va être un chemin inverse de Compostelle, pour remonter jusque dans le Jura. Et il va décider de reprendre toutes les thématiques économiques, macroéconomiques qu'il avait couvert depuis les grands sommets, mais pour les étudier finalement à hauteur d'homme depuis son road trip économique.
Okay.
C'est ça en fait sa démarche. Et à ce moment-là, il va nous raconter cette diagonale du vide qu'il va découvrir notamment en France. Il va nous raconter tous ces villages où il va voir tous ces panneaux dont il parle non à la fermeture de la maternité quand lui voyait quand il était était enfant plutôt des slogans touristiques qui vantaient les nouveaux fromages. Il va être frappé par la désindustrialisation, par la fermeture des services publics. En fait, il va décrire dans son livre une Europe low cost. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air en fait de la découvrir. En fait, c'est des thématiques qu'on connaissait, mais dont il parlait depuis ces grands sommets internationaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui mêle choc un peu intime et en même temps une sorte de mea culpa sur la manière dont il traitait ces thématiques en disant que finalement, quand on les regarde à hauteur d'homme, derrière les courbes et les stats, en fait, il y a des gens. Et il voit ce livre aussi comme une des clés de compréhension pour essayer de mieux comprendre cette colère qui monte en Europe.
On va poser la question franchement, est-ce qu'il a changé de bord, entre guillemets? C'est-à-dire que est-ce que il adhérait à la vision de la mondialisation, non, du libre-échange?
En fait, c'est pas ça même. Il a pas changé de bord. Il a juste regardé par une autre fenêtre. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que ça a aussi résonné par rapport à quelque chose de personnel. On se connaît bien. Je suis journaliste économique. Moi aussi, j'ai couvert tous ces grands sommets. Oui. J'ai couvert la chute de l'Est. J'ai passé énormément de temps à Bruxelles. J'ai passé beaucoup de temps à Athènes. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et il se trouve que moi, au niveau personnel, mes parents vivent en Grèce et à l'époque, pendant ces sommets-là, j'avais une vision un peu germanique en couvrant ça depuis les sommets.
Ah oui, d'accord.
Ah ben, j'avais une vision un peu germanique parce que forcément, vis-à-vis des Grecs, vous avez triché, vous devez payer. Il fallait être un peu pragmatique. Et en fait, j'ai vu à hauteur d'homme sur place en Grèce, en allant voir où vivaient mes parents, quelle était la conséquence concrète de ce qu'imposait la Troïka sur place. Et je peux vous assurer que sur place, quand vous voyez dans tous les villages les spectacles de guignols avec les méchants policiers qui sont remplacés, je les ai vus, là où j'amenais mes enfants, on voyait les policiers remplacés par la Troïka, par Christine Lagarde, Draghi, Barroso, Juncker, qui était en papier de chiffon avec le méchant qui les tapait, les enfants grecs en folie sur la place. J'ai vu aussi à côté de la place Syntagma, à côté du Parlement, au centre d'Athènes, ce qui ressemblait à une émeute de la faim, avec un camion alimentaire qui a été totalement retourné par des Athéniens, c'était complètement. Et si vous voulez, et moi en fait, j'ai fait ce processus-là
vous
aussi.
Vous êtes retrouvé dans le livre de Antonio.
Je me suis un peu retrouvé. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de bord. C'est juste que j'ai regardé par une autre fenêtre. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête que Christine Lagarde elle-même, plusieurs années plus tard, avait fait un mea culpa en disant qu'elle avait totalement sous-anticipé la violence de l'impact récessif des mesures d'austérité.
Eh bien voilà, merci d'avoir défendu avec vos tripes, Mathieu Jolivet, ce livre qui a l'air passionnant, donc ces chemins de la colère.
Les chemins de la colère.
D'Antonio Rodriguez Castiñeira, c'est chez Bayard. Merci Mathieu. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Eh bien, puisque nous sommes à l'approche de Pâques, j'ai choisi un livre sur le chocolat. C'est « Quel chocolat pour demain ?» de Catherine Khodorkovsky aux éditions Duno. Donc, c'est un livre, comme souvent ces livres, alors on nous explique d'où ça vient, où on produit le cacao, tout ça. Mais il y a aussi une dimension pour une consommation plus responsable. Et donc, il y a quelques conseils sur le fait que on pourrait s'intéresser davantage aux conséquences sur la vie quotidienne en Afrique ou en Asie, des plantations de cacao.
Bon, acheter du chocolat équitable, quoi.
Voilà, acheter plutôt du chocolat équitable. Et n'hésitez pas à le faire parce que c'est finalement assez agréable de consommer du chocolat.
Voilà. Quel avenir pour le chocolat? Quel avenir pour nos impôts? Allez.
J'aime bien quand Jean-Marc fait son environnement durable. Moi, c'est très bien.
Voilà, mais ça, c'est le nouveau Jean-Marc Daniel. La marguerite entre les dents. Christian Chavagneux, votre dernier choix.
Alors moi, j'ai choisi Schmattes.
On voulait tous le prendre. Exactement.
Voilà.
Formidable. Allez-y, expliquez-nous.
On adhère.
Ça veut dire fringue en yiddish. Donc c'est notre confrère Guillaume Erner de France Culture. Donc, le livre, c'est à la fois une tranche de vie personnelle, parce qu'on ne sait pas qu'avant d'être prof de socio à Sciences Po et d'être le matinalier de France Culture, il a fait du business dans le sentier, dans le milieu des fringues. C'est souvent extrêmement drôle, d'autodérision. C'est aussi une explication de comment fonctionne le textile dans le sentier dans les années 80-90, avec ses hiérarchies, ses personnages. Il y a des portraits de personnages complètement géniaux. Et puis, comme nous dit Guillaume Erner, on est dans le légal, dans le limite légal et dans le pas du tout légal. Et c'est vraiment très bien décrit. Et c'est aussi, il nous dit, vraiment une explication de la dynamique du capitalisme français des années 80-90. C'est vraiment très explicatif, il y a du fond, on rigole bien souvent, donc c'est vraiment un livre original et à lire.
Non, mais c'est passionnant parce que c'est en fait il refait vivre tout le sentier
complètement
qui était quel sentier d'ailleurs post post grande époque des fourreurs etc.
C'est-à-dire c'est 80-90
c'est presque la vérité si je mens quoi.
The City, bah,
oui, exactement. C'est sorte. La vérité si je mens.
Voilà.
Fait, oui.
Non, c'est un livre formidable. On a tous adoré ce livre. Allez, moi je termine avec le très intéressant livre collectif dirigé par Guillaume Piketty, publié par Passé Composé et le ministère des Armées. Question cruciale, comment sort-on d'une guerre? Et donc ce livre, eh bien, finalement, reprend toutes les guerres, des guerres de religion aux conflits asymétriques, pour traiter toutes les problématiques de la sortie de guerre. Donc comment, finalement, bien avant la fin d'un conflit, et encore longtemps après, on négocie, finalement, les conditions de la fin de guerre, comment gérer les ultimes violences, les politiques d'épuration, les retours de ceux et celles que le conflit a déplacés, la démobilisation culturelle, le déploiement des projets de redressement des pays détruits, la prise en charge des séquelles physiques et psychologiques, tous les aspects de la sortie de guerre. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, voilà, c'est effectivement l'actualité qui nous impose aussi ce choix. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.